Bonjour à tous et à toutes, ici Lino et Elvira dans le cadre de la presse et de liberté d'expression. Nous accueillons Christiane Thiria. Bonjour Christiane et merci d'être venue.
Bonjour, bonjour à vous, les petits jeunes. Bonjour aux auditeurs, aux auditrices.
D'après nos informations, vous avez été correspondante de presse. Pouvez-vous nous dire ce que c'est?
Oui, pendant 30 ans, plus 5 ans après, en tant que j'ai continué en tant que bénévole. Alors, le correspondant de presse en soi, dans des communes comme dans les Vosges, où chaque commune a son correspondant, consiste à donner aux lecteurs le plus d'informations possible sur sa commune. Alors, ça va aussi bien une assemblée générale d'association, ça va aussi bien qu'une manifestation. Ça passe aussi par les, ça passait parce que je crois que maintenant ils le font plus, par les naissances, les décès, etc., etc. On était au plus près de la vie de la commune pour informer les habitants qui lisaient le journal. C'est pareil, ça se fait un peu moins. Il y a beaucoup Internet détrône quand même pas mal la presse écrite aujourd'hui. Mais il faut être au contact de tout le monde et essayer de ne pas prendre de parti, surtout pas prendre le parti de l'un ou l'autre quand on écrit quelque chose, mais de relater tout ce qui se passe dans une commune. Voilà.
Et quel était votre parcours de correspondant de presse?
En fait, tu as le correspondant de presse, tu as le journaliste. Hein, le correspondant de presse, il est au plus près dans les communes et tout ça. Donc, pour être correspondant de presse, alors aujourd'hui, ça change un peu, hein, parce qu'il y a l'IA qui est arrivée. L'intelligence artificielle est arrivée et elle est en train de tout chambouler quand même. Ça, faut le savoir. Moi, pendant ces 35 ans où j'ai fait ce métier, on n'avait pas l'IA. Donc, il fallait quand même savoir écrire, il fallait quand même être bon en français. Le français était quand même très important, il fallait savoir écrire, il fallait savoir transcrire au plus juste et ne pas faire de fautes. Orthographe, grammaire, etc., etc. Aujourd'hui, c'est un peu différent. D'ailleurs, ils vont avoir de moins en moins besoin de correspondants de presse locaux. Je parle des correspondants locaux. Ils en auront de moins en moins besoin parce que avec l'intelligence artificielle, elle est capable de vous faire un texte, de vous faire un texte. Voilà. Vous lui mettez ce qu'il faut, elle vous sort un texte. Le seul problème, c'est que quand on est, comme on a été, nous, toute une génération, voire plus de correspondants, on est sur le terrain, on a les sentiments, on a les ressentis des personnes, on partage plein de choses avec les personnes d'une commune, quand on est correspondant de commune. Ce qui va se perdre avec l'IA, puisque l'IA n'a pas de sentiments. Automatiquement, c'est un ordinateur qui va vous balancer un texte, le texte que vous attendez bateau, mais qui est capable. Ce qui revient moins cher d'ailleurs pour les journaux. Voilà. Mais bon, pour être correspondant, déjà, il faut savoir. Ben, je vous parle de moi quand jusqu'à il y a encore 5-10 ans. Hein. C'était un peu comme ça. Il fallait savoir écrire, il fallait aimer, il fallait savoir prendre des photos, il fallait prendre le temps d'aller vers les gens, prendre le temps d'assister à tout ce qui se passait dans une commune. On était vraiment au cœur de la commune.
Avez-vous un souvenir de votre expérience de correspondante à nous partager?
Il y en a plein on a plein de souvenirs. On a plein de souvenirs parce que automatiquement, quand une personne décède dans une famille. Je prends ça parce que c'est vraiment le côté le plus triste, mais le plus c'est très émotionnel ça parce que il y a encore quelques années, quand quelqu'un décédait, on pouvait les garder à domicile. Ça se faisait. On les gardait à domicile. On les mettait pas forcément, on les envoyait pas forcément dans une morgue, mais on pouvait les garder. Donc, quand la personne était décédée, ce que faisait la famille, c'est qu'elle appelait le correspondant de presse en premier pour pouvoir prévenir tout le village. On faisait un article et tout le monde le savait. C'était plus facile, c'était beaucoup plus facile comme ça que d'aller dire aux gens, bon, il est mort, c'était voilà. Et quand on arrivait dans les familles, c'était un gros moment émotionnel parce que automatiquement ces gens, on les connaît, la personne décédée, on la connaît. Et à ce moment-là, les gens parlent parce qu'ils sont tellement tristes qu'ils ont besoin de parler, ils ont besoin de parler de la personne défunte. Et c'est vrai qu'après, c'est vraiment tous des souvenirs qu'on a avec ces gens-là, c'est des liens qui se tissent. Mais dans la même famille, on va aller faire le mariage des enfants. Tu vois, donc sur une même famille, on pouvait avoir le décès, la naissance, le mariage. Voire des fois les communions, quand on nous appelait encore pour les communions. Après, c'est tout des souvenirs parce qu'en fait, on partage tellement de choses avec les gens. Quand on arrivait pour une assemblée générale, on était là, on avait le président, discute avec le président, tu écoutes ce qu'il te dit. Et puis après, tu te mets dans le public et dans le public, on entend d'autres choses et pas forcément des gens qui sont d'accord avec ce que dit le président. Tu vois, moi, je dirais que chaque moment est un moment fort. Les élections, quand on est là et puis qu'on partage un peu, c'est un peu la liesse et puis la liesse pour ceux qui gagnent, la déception pour les autres. Tu es au milieu de tout ça, automatiquement, c'est des souvenirs. Alors, il faut bien se dire que le correspondant de presse, comme nous, on est en France, dans les communes, c'est différent du correspondant de presse qu'on peut voir qui va dans les pays étrangers au moment des guerres, etc., etc. C'est pas la même formation, c'est pas du tout la même chose. Les correspondants de presse qu'on va nous montrer à la télévision, c'est des gens qui ont une formation spéciale. Hein. Ils vont sur le terrain dans les pays de guerre. D'autres, c'est pour la politique. D'autres, voilà. Il y a énormément de correspondants. On n'a pas le même travail, on n'a pas les mêmes formations. C'est pas du tout la même chose, d'accord?
Qu'est-ce que la liberté d'expression dans votre travail?
Alors, la liberté d'expression, c'est quelque chose qui est en train de se perdre, malheureusement. Parce qu'on est aujourd'hui sous l'influence de gros groupes. Dans le temps, vous aviez des petits groupes, vous aviez Vosges Matin, vous aviez l'Est Républicain, vous aviez des petits groupes comme ça, qui au final aujourd'hui sont gérés par des gros groupes qui les ont rachetés. Ce qui veut dire, derrière des gros groupes, il y a toujours un peu de politique, même beaucoup. Et en fonction, on vous supprime certaines choses ou on vous dit « ça on traite plus, ça on traite plus ». Et vous, vous êtes là, vous êtes obligé de suivre ce qu'on vous dit. Donc la liberté d'expression, il faut savoir qu'elle est en train malheureusement de se perdre. Elle fait partie d'une des choses qu'on est en train de perdre. C'est ce que je vous disais tout à l'heure, et ça c'est très, très important, la liberté d'expression. Parce que quand on n'en aura plus, on n'aura plus la possibilité nous-mêmes de réfléchir. Hein. On n'aura plus nous-mêmes la possibilité de choisir. Parce qu'on n'aura qu'une version. Toujours une seule version. Et automatiquement, quand on ne sera pas d'avis avec cette version, on va devenir ce qu'on appelait dans le temps des parias. On ne sera plus dans le moule et on va être comme ces gens qui manifestent pour l'environnement et tout ça. On sera traité un petit peu comme si on était des parias, des gangsters, etc. Donc, il faut faire très attention à sa liberté d'expression.
Avez-vous déjà été confronté à la censure ?
Oui, bien sûr, bien sûr. Alors, voilà, en quelques années, on a fait des progrès quand même. On a fait des progrès dans la mesure où, quand on censure, on te dit « tu fais pas ça », on le traite pas. Ou alors, attention, il y a des choses qui... Voilà. Avant, tu envoyais un article, tu étais content de toi, hein, tu avais fait un grand truc, tu étais content, tu avais donné un peu tous les aspects. Et le lendemain matin, tu ouvrais ton journal et tu te disais « qu'est-ce que c'est ce bazar ?» On t'avait coupé des choses dans ton article. Et quelquefois, tu relisais ton article, tu te disais « qu'est-ce que c'est ça ? J'ai jamais écrit un machin... » J'allais dire un gros mot, alors je me retiens. « J'ai jamais écrit un machin pareil, c'est pas moi ça !» Parce qu'on t'avait coupé des choses sans refaire un lien. Donc ça se voit moins. Tu vois un peu ce que la censure, ça peut être quand même, parce que ça peut te mettre un article que tu as fait où tu as mis plusieurs choses, tu as voulu faire ressortir des choses, et tout à coup, c'est devenu un espèce de truc illisible, parce qu'on t'a coupé toute la fin, ou on t'a coupé le milieu parce que ça plaisait pas, ou parce que c'est jamais des fois que ça amène des problèmes. Et on t'a rattaché un article comme ça. Sauf que l'article, il voulait plus rien dire, ou alors il voulait dire tout et son contraire. Donc on le voit moins quand même, on le voit moins parce que maintenant on te dit 4 lignes sur cette... ça fait 4 lignes, ça fait 10 lignes. Tu as des directives avant, donc tu sais, voilà. La censure, on la voit tous les jours, hein, de toute façon. Même à la télévision, on la voit tous les jours, la censure. Regardez bien, on donne toujours un avis. Quoi qu'en ce moment, c'est la guerre. Alors, on essaie de montrer un petit peu plus, un petit peu plus. Mais la censure est là, elle est bien là.
C'était sur quel sujet, par exemple ?
Oh là, j'en ai eu tellement, je ne me rappelle plus tout. Je me rappelle une fois avoir fait un article avec des photos. Ça remonte à il y a 20 ans, quelque chose comme ça. Sur les photos, moi, j'avais pris tout le monde. Normal, mon boulot, c'était de prendre toutes les personnes qui étaient là. Le lendemain, je me suis fait appeler par la mairie. Et là, on m'a dit, pourquoi vous avez mis un tel sur le journal? J'ai mis un tel sur le journal parce qu'il était là. Ah oui, non, mais moi, j'en veux pas. Je veux pas le voir. Moi, je lui dis, vous êtes en train de me demander de censurer quelque chose. Si j'avais écouté, je prenais une demi-photo et j'enlevais les autres. Ça, c'est de la censure aussi, ça. Tu vois, tu choisis quelle personne tu vas mettre et tu mets pas les autres. J'ai jamais fait, moi. J'ai toujours envoyé tout. Et puis après, parce que j'estime que quand on est là, quand on fait l'effort de venir, on vient et puis on est en photo parce qu'on doit être en photo. La censure, ça peut être sur un tas de choses, tu vois. Ça peut être sur une photo, ça peut être sur un article, ça peut être sur quelque chose qu'on te supprime, ça peut être sur cet article, sur ce sujet-là, vous me faites que 4 lignes. Tu vois, c'est des choses comme ça. Il y a des choses beaucoup plus graves, hein. Dans politique, il y a des choses beaucoup plus graves. Mais quand on est sur le terrain, la censure, on n'aime pas trop.
Quelle est votre vision sur l'évolution de la liberté de la presse?
Eh ben, elle n'est pas trop bonne. C'est ce que je disais tout à l'heure, la vision sur la liberté de la presse. En fait, tant que la presse sera sous la gouverne de grosses firmes, notamment il y en a 2 en France, ça posera des problèmes parce qu'il faut aller dans le mouvement actuel. Et c'est sûr qu'à partir du moment où toi tu vas lancer, parce qu'on est aussi lanceur d'alerte quelque part, on voit des choses, on sait des choses, on doit les dire. Mais ça plaît pas, c'est pas ce genre de choses qu'on veut. Si tu lances une alerte qui va dans le mouvement, ça va bien. Si tu lances une alerte qui met en porte-à-faux des personnes, ça va pas. Surtout si c'est des personnes qui ont un certain statut. Et là, ça ne va pas, tu vois. Donc, la liberté de la presse, malheureusement, est en train de se perdre. Et ça aussi, c'est quelque chose qu'il faut défendre. Mais comme toutes les libertés aujourd'hui, ce qu'on disait tout à l'heure, toutes les libertés sont en train, on est en train de nous grignoter sur toutes nos libertés. Et ça, il faut faire très attention. Parce que quand on n'aura plus de liberté, ça va être très grave pour tout le monde. Pour vous, les enfants, pour les adolescents, pour les adultes, pour toutes les générations. C'est vaste, hein. Il y a, tu vois, la liberté, il y a la liberté, le droit de mourir, le droit de choisir sa mort, le droit de ceci, le droit de cela. Mais quand il est bien encadré, quand tout est bien encadré, quand tout est bien noté, quand tout est bien respecté, ça va. Quand c'est pas encadré, il peut se faire n'importe quoi. Et là, c'est grave.
Notre interview touche à sa fin. Merci, Christiane, de vous être déplacée pour répondre à nos questions. Bonne fin de journée, soirée ou matinée, tout dépend de l'heure à laquelle vous nous écoutez, et à la prochaine sur Radio Gémozone.
Et alors, merci à vous pour vos questions, merci à vous pour ce moment de partage, et bonsoir à tout le monde, ou bonjour à tous les auditeurs, je ne sais pas.